Vous vous souvenez, la dernière fois que le masque s'est pris dans mes lunettes, la dernière fois que que j'avais apporté le message, il y a quelques semaines, nous nous étions arrêtés sur la prière collective, la prière communautaire, et nous avions rappelé l'épisode de l'emprisonnement de Pierre et de l'intercession fervente que faisait monter l'Église entière réunie dans la maison de Marie. Aujourd'hui, j'aimerais bien attirer notre attention sur une autre dimension de la prière, puisqu'il s'agit de la prière individuelle, de la prière personnelle. Considérant la primauté de la prière individuelle, personnelle, Charles Spurgeon, le prédicateur bien connu, a dit un jour « Je préférerais enseigner à une personne de prier plutôt qu'à 10 de prêcher, à prêcher. Je préférerais enseigner à un homme à prier plutôt qu'à 10 hommes à prêcher. » C'est dire combien il mettait en avant-plan, sur un piédestal, l'importance de la prière individuelle. Le théologien et évangéliste John Wesley, qui a été à l'origine d'un réveil et à l'origine aussi de l'Église méthodiste, il vivait au XVIIIe siècle en Angleterre, et il passait chaque jour 2 heures de ses journées à prier. Il se levait, le courageux, tous les jours à 4 heures du matin. Il consacrait 2 heures de ses journées à la prière. Et quelqu'un a pu dire de lui, quelqu'un qui le connaissait bien, a écrit ceci de lui: il pensait que la prière était plus son travail que n'importe quoi d'autre. Et je l'ai vu sortir de son bureau avec une sérénité telle que son visage semblait briller. Et ça nous fait penser, bien évidemment, à la relation que Moïse avait avec Dieu lorsqu'il descendait du Sinaï ou lorsqu'il sortait de la tente d'assignation, de la tente de la rencontre, son visage était transfiguré. Et Wesley expérimentait à travers la prière personnelle, individuelle, une proximité telle avec le Seigneur que son visage brillait. On va faire la lecture d'un verset seulement, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 6. Un passage qui se situe un petit peu avant la prière sacerdotale de Jésus, de notre Père. Et dans ce verset 6 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, nous lisons « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Et j'aimerais bien mettre le focus sur 4 mots de ce verset. Prie, chambre, porte et te le rendra. Tout d'abord, quand tu pries, premier mot, prie. Il s'agit de cette prière où on est seul, seul avec Dieu, seul avec le Seigneur. Ces moments, ces temps de dialogue avec le Seigneur, de dialogue avec Dieu. Et pour être honnête, l'exercice de piété pour lequel j'éprouve le plus de difficultés à appliquer dans ma vie, c'est celui-là, la prière personnelle. Mais je suis convaincu que je ne suis pas le seul. Des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église ont prié pendant des heures. Jésus lui-même a prié pendant toute une nuit et à d'autres moments, il a prié pendant de longues périodes, de longs moments aussi. Et nous, lorsque nous parvenons à prier 5 minutes, nous avons le sentiment du devoir accompli et nous nous donnons bonne conscience. Mais pourtant, si on veut être honnête, ça reste quelque chose de superficiel. Et il y a E.M. Bounce, qui écrit dans son livre « Puissance par la prière », donc qui dit ceci, « Une prière superficielle donnera une vie superficielle en Christ. » Une prière superficielle donnera une vie superficielle en Christ. Certains chrétiens ne prient plus parce que la prière ne fait plus partie de leur priorité. Certains chrétiens ne prient plus parce qu'ils pensent que Dieu ne les écoute pas. Certains chrétiens ne prient plus parce qu'ils ont la conscience chargée d'une culpabilité à cause d'un péché qui n'a pas été confessé. Et c'est vrai que le péché constitue un obstacle à la communion avec Dieu et à l'exaucement de nos requêtes. On peut peut-être cacher nos fautes à notre conjoint, à nos frères et sœurs. Je peux peut-être cacher une faute, un péché que j'expérimente dans ma vie à Olivier, ou bien au pasteur, ou bien aux anciens, mais pas devant Dieu, qui sonde les cœurs et les reins. Le psalmiste, au chapitre 66, verset 18, dit ceci, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Et c'est vrai que le péché constitue une barrière à la communion avec Dieu et à l'exaucement à nos prières. S'il y a des choses mauvaises qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été jugées en moi, dans ma vie, mes prières risquent de ne pas dépasser le plafond ou de redescendre aussitôt. D'où l'importance de la prière de repentance comme préambule à un temps de prière plus prolongé. L'importance de la prière de repentance. Il y a John Bunyan qui a écrit ceci de très intéressant. C'est court, mais c'est interpellant. La prière conduira un homme à arrêter de pécher ou le péché conduira un homme à arrêter de prier. Je vais répéter. La prière conduira un homme à arrêter de pécher ou le péché conduira un homme à arrêter de prier. Et c'est vrai. Le diable sait combien n'est l'impact du chrétien qui se met à genoux. Le diable sait qu'un chrétien à genoux est un chrétien fort, un chrétien victorieux, un chrétien qui est aussi efficace dans l'avancement du règne, du royaume de Dieu. C'est pourquoi il va tenter de mettre tout en œuvre pour essayer de nous faire dévier de cet acte de piété, de cette discipline spirituelle qu'est la prière personnelle. Et malheureusement, il y arrive souvent. Nous consacrons la majeure partie de notre temps et de notre énergie à des activités excessives, à un travail excessif, à des loisirs excessifs, à des plaisirs excessifs qui nous absorbent et relayent au dernier rang la prière individuelle. Ces précieux moments de prière que nous pouvons avoir avec Dieu. Nos journées sont tellement chargées d'activités que nous disons « Oh, je n'ai plus le temps pour consacrer un moment de prière avec le Seigneur. » Luther, lui, raisonnait à l'inverse. Il disait, j'ai tellement de travail aujourd'hui que si je ne commence pas par prier au moins 2 heures, je n'arriverai pas au bout de ma tâche. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste suivra et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nos priorités, elles sont bouleversées. Pourquoi ? Eh bien, parce que les choses d'en bas ont pris le pas sur les choses d'en haut. Les choses d'en bas prennent le dessus sur les choses d'en haut. Au sommet de l'échelle de nos priorités, on trouve le revenu, le salaire, la sécurité, le confort, les plaisirs, etc. Et en bas, s'il nous reste du temps, nous trouvons la prière personnelle, la prière individuelle, s'il nous reste du temps. Est-ce que nous parvenons à retrancher ne fût-ce que quelques minutes de nos temps de loisirs? Est-ce que nous parvenons à retirer un peu du temps que nous consacrons à nos distractions pour le mettre à profit pour un temps de prière, pour un moment avec Dieu? Le réformateur Martin Luther, encore lui, écrit ceci: « Veillons à ne pas nous laisser détourner de la prière sous prétexte que telle ou telle chose est plus urgente, ce qu'elle n'est pas en réalité, et ainsi à devenir négligent, paresseux, insensible et soucieux. Le diable, lui, qui rôde autour de nous, n'est ni négligent, ni paresseux. Ni négligent, ni paresseux. » Et il s'exclamait encore: « Si je manque de passer 2 heures en prière chaque matin, » c'était son expérience à lui, bien évidemment, « le diable prend la victoire dans la journée. » La prière. Être seul à seul avec Dieu. Et puis il y a le deuxième mot, c'est le mot « chambre ». Quand tu pries, dit Jésus, entre dans ta chambre. Où prier? Quel est l'endroit le plus propice à la prière? J'ai envie de dire que ça n'a pas d'importance. On peut prier dans sa chambre, mais on peut prier aussi dans le bois, assis sur un banc, dans notre voiture, dans le wagon d'un train si nous sommes seuls, sur un terri. Pour autant que le dialogue avec Dieu soit préservé, pour autant que nous ne soyons pas dérangés dans notre prière, dans notre dialogue avec Dieu. Je me souviens, quand j'étais étudiant à Everlé, j'ai peut-être déjà raconté cette illustration, cette expérience. Eh bien, j'étais dans un ancien monastère. Et il m'arrivait de gravir les escaliers, les rampes d'escalier qui donnaient accès à la plus haute tour du bâtiment. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui se rendaient là parce qu'il fallait monter beaucoup d'escaliers. Et là, j'étais tranquille. J'étais seul avec Dieu. Et je pouvais consacrer du temps à la prière sans être dérangé. Et après, il y en a d'autres qui ont eu l'idée. Et la réunion de prière personnelle est devenue une réunion de prière communautaire. Mais c'était bien aussi. Daniel, le prophète, priait dans sa chambre. Et nous lisons au chapitre 6, verset 10 du livre. Daniel se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu. Daniel priait dans sa chambre. Pierre, lui, dans le livre des Actes, priait sur le toit, sur un toit. Il a prié sur un toit. Ce n'était pas un toit pentu comme celui qu'il y a au-dessus de notre tête, quoique il y ait une plateforme à un certain endroit. C'était des maisons cubiques dont le toit plat servait souvent de terrasse. Et Pierre a profité de cet endroit où il était isolé, où il était seul, pour prier. Jésus monta sur une montagne pour prier. Matthieu 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, c'est juste après la multiplication des pains, donc quand il l'eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul, seul avec son Père. Choisissons le meilleur endroit. Et puis, troisième mot, fermons les portes. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ferme la porte à toutes ces pensées errantes. C'est fou, hein ? Comme les idées, comme les pensées vagabondes, parasites, peuvent intervenir au mauvais moment. Peuvent venir au mauvais moment. Je me souviens, il y a quelques semaines, au mois de mars, on a bénéficié de quelques beaux jours, et j'en ai profité pour m'asseoir sur le canapé de la véranda. Je me dis, je vais prier. Et alors, pour alimenter le temps de louange, j'ai commencé à regarder la nature autour de moi, à l'extérieur, et puis mon attention a été attirée par les bananiers qui se trouvaient à l'intérieur de la véranda. Et puis j'ai commencé à avoir à partir de ce moment-là des idées, des pensées parasites. Ah, les bananiers, ils ont souffert de l'hiver, il y aura des feuilles mortes à retirer. Ah, je vois que la terre commence à sécher, il va falloir que je les arrose. Si je ne le fais pas tout de suite, je vais oublier. Ah, il me semble que les feuilles sont collantes. Il y a peut-être des cochenilles qui sont là. Voilà comment ces idées parasites ont commencé à me détourner de la résolution initiale que j'avais de prier Dieu. Lorsque je décide de prendre un temps de prière, et je suppose que ça nous arrive à tous, c'est alors que surviennent ce genre de pensées parasites. Ah, je dois téléphoner à un ami. Oh, je dois répondre. Je dois envoyer un mail à un tel. Oh, je dois aller promener le chien, il ne faut pas que j'oublie. Changer le bac à chat. Terminer la vaisselle avant que mon épouse arrive. Ah, je dois aussi éplucher les pommes de terre. Et voilà comment toutes ces idées parasites tentent de nous détacher du moment de la résolution ferme que nous avions pourtant prise de passer un temps dans la prière avec le Seigneur. Comment faire taire ce tumulte intérieur ? Comment faire taire toutes ces pensées ? Comment dissiper toutes ces pensées ? Bien, Luther, encore lui, donnait donc, comme conseil, préconisait pour dissiper les pensées terrestres ou charnelles, de lire deux ou trois fois un verset des psaumes, par exemple, et de se laisser par là imprégner par des pensées spirituelles, de se laisser imprégner par la parole de Dieu. Ainsi, par exemple, si je décide de m'arrêter pour commencer à prier Dieu, je peux lire un verset du psaume, d'un psaume, juste réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté, et le répéter plusieurs fois comme cela, pour m'en laisser imprégner, m'arrêter sur les mots, célébrer, qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Comment puis-je me réjouir en l'Éternel ? La sainteté de Dieu, qu'est-ce que ça implique ? Etc., etc. Voilà ce que Luther préconisait avant de commencer un moment de prière, pour dissiper les pensées parasites, afin de se laisser imprégner par la parole de Dieu. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Ferme la porte de tes préoccupations. Ferme la porte de tes activités matérielles que tu dois encore accomplir momentanément. Ferme-leur la porte. Ferme la porte à toutes ces pensées parasites qui essayent de te perturber afin de t'empêcher de prier. Ferme la porte de tes yeux. Ferme la porte de tes oreilles pour qu'il n'y ait plus que ton esprit seul qui soit en relation avec l'Esprit de Dieu. S'adonner à la prière, c'est un véritable combat. C'est une véritable lutte intérieure. Le moi charnel, égocentrique, se manifeste pour tenter de nous détourner de la prière. Galates 5, verset 17, dans Galates 5, verset 17, l'apôtre Paul le dit d'ailleurs. La chair a des désirs opposés, contraires à ceux de l'esprit, Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils ne sont pas dans la même sphère. Il y a combat, il y a lutte. Et quand on veut rentrer dans un temps de prière intime, personnel, avec Dieu, il y a ce combat. Il y a cette lutte qui est là pour tenter de nous faire dévier, pour nous tenter de nous détourner de ces précieux moments de prière. Et puis, autre mot, dernier mot, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce que Dieu peut bien nous rendre? Qu'est-ce qu'il nous doit? Il ne nous doit rien, mais pourtant il veut nous rendre quelque chose. Il veut nous donner quelque chose. Pour beaucoup de chrétiens, prier, c'est demander à Dieu quelque chose précisément qu'il va nous donner. Prier, c'est demander à Dieu pour recevoir de lui. Alors, penser cela, évidemment, c'est réducteur, tant la prière implique beaucoup d'autres éléments, entre autres, la louange, louer Dieu. Je rentre dans cette dimension de la prière et je mets en évidence la louange que je veux apporter à Dieu. Louer Dieu pour son être, louer Dieu pour ce qu'il est, louer Dieu pour ses œuvres, louer Dieu pour sa sainteté, louer Dieu pour son pardon, louer Dieu pour sa grâce, louer Dieu pour son salut, louer Dieu pour sa création, louer Dieu pour ses promesses, louer Dieu pour son si grand salut. Voilà comment je peux louer le Seigneur. Et à travers la louange, précisément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon âme s'élève à Dieu. Mon âme s'élève vers Dieu. Et je jouis pleinement de la présence du Seigneur et de ses bienfaits. Voilà les bénéfices que je peux retirer de la prière personnelle, de la prière individuelle. Mon âme s'élève vers Dieu. Et quand mon âme s'élève vers Dieu, j'éprouve une joie, une béatitude profonde. Quand mon âme s'élève vers Dieu, je reçois la force spirituelle pour repousser les tentations. 1 Chronique 16, verset 27 dit, 1 Chronique 16, verset 27 dit, la majesté, je vais attendre un instant, la majesté et la splendeur sont devant ta face, la force et la joie sont dans ta demeure, sont dans ta présence, sont dans ton sanctuaire. Quand mon âme s'élève, eh bien je reçois la joie, je reçois la béatitude, une béatitude profonde. Je reçois la force pour repousser les tentations. Quand mon âme s'élève, je marche dans la victoire. Quand mon âme s'élève, je reçois la paix. Cette paix que l'intelligence humaine ne peut pas cerner, dit l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 4. Quand mon âme s'élève, l'Esprit Saint remplit ma vie. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Quand mon âme s'élève, je bénéficie de la plénitude du Saint-Esprit. Quand mon âme s'élève, je recherche les choses d'en haut. Quand mon âme s'élève, je porte des fruits. Quand mon âme s'élève, Dieu me communique sa volonté, son plan, ses projets pour ma vie. Quand mon âme s'élève, Dieu me révèle certaines choses. Quand mon âme s'élève, j'éprouve un bien-être, une sécurité sans pareil. Ce que je vous partage là maintenant, ce n'est pas une théorie. Je vous assure que ce n'est pas une théorie. Il suffit d'expérimenter la réalité de la dimension de la prière personnelle pour se rendre compte que c'est vrai. Quand mon âme s'élève, j'ai tout pleinement en Christ. Et ce sont toutes ces choses d'en haut, dont le diable veut nous priver. Quand tu pries, entre dans ta chambre, le lieu, ferme la porte, les idées parasites, et prie la prière individuelle, le dialogue avec Dieu, ton Père, qui est dans les cieux, dans le lieu secret. et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. C'est ce que nous venons de voir. Pour terminer, posons-nous cette question. Est-ce que je consacre une petite partie de mon temps à la prière individuelle? Est-ce que je consacre ne fût-ce qu'une petite partie de ma journée à la prière personnelle? Ce qui manque probablement le plus aujourd'hui au peuple de Dieu, c'est la culture de la prière personnelle. Pourtant, elle est la clé de notre épanouissement et de notre croissance spirituelle, ainsi que de la croissance de l'Église par extension. La croissance de notre vie chrétienne trouve son enracinement, d'une part, dans la parole de Dieu, et d'autre part, dans la prière personnelle, dans la prière individuelle. Prier régulièrement, l'exercice de la prière n'est pas une pratique exclusivement réservée à ceux qui ont le temps, comme les prêtres, comme les pasteurs, comme les sœurs, comme les moines, comme les grands-mères âgées. Non, c'est réservé pour tout un chacun. Et Luther, encore lui, à qui on attribue cette citation, a dit ceci: le chrétien doit prier comme le cordonnier faire des chaussures et le tailleur des costumes. La prière est le métier du chrétien. Le chrétien doit prier comme le cordonnier faire des chaussures et le tailleur des costumes. La prière est le métier du chrétien. Choisissons le meilleur moment pour notre prière personnelle. Un moment où nous ne serons pas dérangés par la somnolence, ni par la fatigue, ni par les sollicitations extérieures d'un tel ou d'un ou d'une telle. Choisissons le moment le plus propice. Et pour terminer, une citation de Mère Teresa, qui a dit un jour, et on ne peut certainement pas lui donner tort: aimez prier au cours de la journée. Éprouvez souvent le besoin de prier et prenez la peine de prier. Aimez prier au cours de la journée. Éprouvez souvent le besoin de prier et prenez la peine.